Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données à chacune et à chacun d'entre vous. Sans condition, cette grâce nous est donnée par Dieu en Christ. Ensemble, nous nous tournons vers Dieu avec le premier chant que vous trouverez au début du psautier français. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux. Nous nous levons pour accueillir cette présence de Dieu qui nous rassemble. Ô Éternel notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche même des enfants, des tout-petits. Il y a là une force formidable. Quand je regarde ton ciel, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui et l'enfant pour que tu le visites? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, le couronnant de gloire et de splendeur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains et tu mets toutes choses à ses pieds, le monde, ses splendeurs et les êtres vivants. Ô Éternel, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Et pour poursuivre dans la louange, c'est non pas le psaume 8 que je viens de vous lire, que nous allons chanter, mais au psaume 95 dans le psautier français, la version de Genève, la version B, « Réjouissons-nous au Seigneur ». Égayons-nous en son honneur, les trois premières strophes du psaume 95b. Bienvenue dans cette maison, frères et sœurs, que vous soyez ici pour la première fois, que vous soyez de passage venant d'Allemagne, de Hollande ou d'ailleurs, que vous soyez un habitué, bienvenue pour ce temps de culte. Oui, ça fait vraiment du bien d'être ensemble pour chercher à nous ouvrir à ce meilleur, à cette source de vie qu'est Dieu. Et puis bienvenue tout particulièrement à Marie Saint-Esteban, qui est au premier rang, là, à Isabelle, sa mère, à Jean-Charles Tenrero, son parrain, Marie-Noël Sicard, sa marraine. On peut dire qu'elle est plutôt bien entourée, bien jouée, Marie. Alors maintenant, nous écoutons ensemble ce que l'apôtre Paul nous propose de chercher à vivre pour la suite grâce à notre Dieu. Voici la voie par excellence, nous dit Paul. L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son seul intérêt. Il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour trouve sa joie dans la vérité, dans la fidélité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais et maintenant ces trois choses demeurent et elles demeurent éternellement. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces réalités, c'est l'amour. Poursuivez donc l'amour. Et face à cet idéal infini de l'amour, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide pour pouvoir progresser. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière d'Ambroise de Milan du IVe siècle. Viens Seigneur et cherche ton serviteur. Viens bon berger, cherche la brebis épuisée, perdue. Viens vers moi que guette l'incursion des loups. Cherche-moi, trouve-moi, accueille-moi, porte-moi. Oui, tu peux trouver celui que tu cherches. Accueille celui que tu trouves et place-le sur tes épaules, celui que tu as accueilli. Ce fardeau n'est pas pour toi une charge. Viens donc, Seigneur, cherche ta brebis. Viens toi-même et porte-moi. Toi qui es salutaire à ceux qui sont perdus, toi qui es le repos de ceux qui sont fatigués, toi qui es vivifiant pour les mourants, viens, et il y aura le salut sur la terre et la joie dans le ciel. Viens, bon berger. Ah. Mon Rédempteur est vivant. Mais voici ce que déclare l'Éternel à chacune et à chacun. Je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il puisse changer et vivre. Et maintenant déjà, Dieu se penche vers nous en Christ et nous dit « Lève-toi et va, tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Avance dans la paix. » Nous chantons notre reconnaissance. Et c'est Jean-Charles Tenréraud, donc le parrain de Marie, qui va nous guider dans la confession de foi.
Je vous invite à vous associer à cette confession de foi. Je crois en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la beauté et la bonté. C'est là la source de notre vie. Je crois en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus, le serviteur mort et ressuscité, pour le pardon et la liberté de tous les hommes, de toutes les femmes. C'est là le prix de notre vie. Je crois en Dieu qui, par son Esprit, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l'espérance de son royaume. C'est là le sens de notre vie. Amen.
À Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Alors, j'invite donc Marie, accompagnée, portée par sa mère Isabelle. Bienvenue Marie, l'Église t'accueille avec joie, toi et en particulier ceux qui ont demandé ton baptême, donc ta mère, Jean-Charles, Marie-Noël. Et c'est vrai que tu vas pouvoir ainsi recevoir le signe de la grâce de Dieu et être accueilli dans cette large, immense famille de tous ceux qui cherchent Dieu en Christ. Et ce baptême, il nous rappelle bien qu'avant même que nous le cherchions, Dieu est déjà près de nous. Et avant que nous puissions lui répondre, déjà, il nous appelle par notre nom. Le baptême est le signe de ce Dieu qui, en Jésus-Christ, nous appelle et vient à notre rencontre. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. C'est notre joie et notre salut de t'adorer, ô notre Dieu. C'est toi qui viens vers nous pour nous donner ta présence et tes bienfaits. Nous te rendons grâce pour Jésus-Christ, ton Fils, et pour la bonne nouvelle qu'il nous a annoncée à chacun. Bonne nouvelle de ta grâce, de ton amour et de ta lumière que tu offres sans condition aucune à tout être. Aujourd'hui, nous te présentons Marie pour qu'elle soit marquée du signe de cette grâce, de cet amour et de cette lumière. Et pour tout cela, nous te célébrons. Amen. Alors, à la fin de l'Évangile selon Matthieu, il y a un passage qui nous rappelle l'institution du baptême. Jésus, au moment de quitter ses disciples, s'approcha d'eux et leur dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant tout ce que je vous ai dit. Et voici, nous dit Jésus-Christ, et cette promesse est pour toi, Marie, je vous suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et ainsi, le baptême est le signe de l'entrée dans l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple dès les origines et que dans sa fidélité, Il renouvelle de génération en génération. Par le baptême, Dieu nous manifeste le salut en Jésus-Christ, et ce baptême, il signifie que Dieu a aimé Marie le premier et qu'il lui déclare « Tu es ma fille bien-aimée, tu ne le sais pas encore, mais je t'adopte, je te connais par ton nom, je t'aime d'un amour éternel. » Cet amour est donné gratuitement, sans condition, dans l'espérance qu'un jour Marie pourra répondre à cette parole et découvrir la présence de Dieu auprès d'elle. « Oui, Marie, nous t'accompagnerons sur ce chemin de foi. Avec toi, nous apprendrons à faire jaillir, grâce à Dieu, une vie nouvelle de foi, de chaleur, de tendresse et à bâtir un monde avec plus de justice, de paix et d'espérance. » Et ainsi donc, Isabelle, Jean-Charles, Marie-Noël, Marie, par son baptême, sera chez elle dans la communauté chrétienne. C'est sa famille spirituelle, mais bien sûr, aucune contrainte ne l'y retiendra. Si jamais elle venait à s'en séparer, sa place resterait simplement toujours marquée, toujours prête pour la recevoir. Et pour répondre à la bonté de Dieu qui la reçoit dans son alliance, vous resterez pour elle un exemple et un appui. Vous prierez pour elle, vous l'instruirez, vous l'aimerez, vous la soutiendrez, afin qu'elle puisse, si elle le désire un jour, parvenir à la foi, qu'elle puisse répondre un jour en toute liberté à la grâce attestée par son baptême, en prenant part à la vie de l'Église et en confessant cette foi qui rassemble tous les chrétiens, Jésus-Christ est le Seigneur. C'est là votre vocation, ça peut être vraiment pour vous une joie. Alors, Marie va pouvoir maintenant donc être baptisée. Ça va comme ça. Marie, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marie, que Dieu te bénisse et te garde, qu'il t'accompagne jour après jour sur la route qui sera la tienne, qu'il l'éclaire de sa lumière et de son amour. Dieu te dit, je serai pour toi un père et tu seras vraiment pour moi une fille. Nous sommes enfants de Dieu, qu'il te conduise sur le chemin de vie dans sa paix, sa force et sa joie. Mère, parrain et marraine, vous pouvez prendre maintenant les engagements que l'Église en cohérence avec ce baptême. Vous voulez faire connaître à Marie l'enseignement chrétien contenu dans la Bible. Pour que Marie puisse fonder son assurance sur la grâce de Dieu, grâce attestée par son baptême, et devenir, si elle le désire, une disciple de Jésus-Christ. Vous la confierez à l'Église pour qu'elle la prépare avec vous à connaître Jésus-Christ et à reconnaître en lui le Seigneur. Est-ce bien là ce que vous voulez ? Dieu vous donnera la force et la joie de tenir votre promesse. Alors Isabelle a préparé pour Marie un témoignage biblique.
Oui. Alors. Donc, le livre de l'Exode nous raconte l'histoire d'une femme d'Hébreu appelée Yochébé, qui enfanta un fils à une époque où Pharaon avait ordonné de faire mourir tous les enfants hébreux mâles. Yochébé prit une caisse faite de joncs qu'elle enduisit de bitume de poids pour qu'elle soit étanche. Elle y mit l'enfant et le laissa dériver à la surface du fleuve. Une des filles de Pharaon aperçut la caisse en joncs et récupéra l'enfant. Elle l'adopta ensuite dans sa famille et lui donna le nom de Moïse. Marie, si tu avais été un garçon, je t'aurais appelé Moïse. Tu es une fille, je t'ai appelé Marie. Tu as été découverte blottie dans un panier, dans la région d'Hanoï au Vietnam. Et de l'agriculteur qui t'a trouvée, au constat des services de police, puis à l'orphelinat d'État, le Seigneur nous a placés l'une et l'autre sur la même route. Nous cheminons ensemble depuis maintenant un an, dans l'évidence, l'amour et la joie. Et pour cela, Seigneur, ma lumière, bénis Marie comme tu nous bénis tous aujourd'hui. Amen.
Un grand merci. Et donc, Marie-Noël ?
Voilà, je voudrais dire quelques mots aujourd'hui, qui est un jour très important. Marie, aujourd'hui, tu commences une nouvelle vie. Désormais, un lien très fort existe entre Dieu et toi, toi et Dieu. Tu partages déjà avec Isabelle, ta mère, la joie et le bonheur d'exister. En grandissant, tu vas découvrir l'amour dont Dieu t'aime, qui maintiendra éveillé en toi le désir et la capacité à ton tour d'aimer. Tu vas découvrir aussi que sa grâce est inépuisable et qu'elle te donnera la force et le courage d'affronter la vie avec ses bonheurs et ses malheurs. Tu as tout à découvrir. Sache que ton parrain, Jean-Charles, et moi-même serons toujours à tes côtés pour te suivre, t'épauler si cela est nécessaire, et surtout pour te dire et te redire que la parole de Dieu est vivante et t'accompagnera ta vie durant. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis sûre que la communauté de l'oratoire et tous les amis ici présents te regardent comme une petite merveille, pleine de promesses. Alors, je voulais simplement évoquer ce que tu es, vous me le permettrez, avec quelques vers de Baudelaire, en forme de poème, évidemment. Marie, ta tête, ton geste, ton air sont beaux comme un beau paysage. Le rire joue en ton visage comme un vent frais dans un ciel clair. Marie, que la lumière du Christ habite dans ton cœur et illumine ta vie.
Nous prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Marie que tu reçois dans ton Église et sur laquelle repose la promesse de recevoir dès maintenant la vie éternelle. En présence de cette grâce, nous sentons notre limite et notre reconnaissance. Donne-nous de prier avec fidélité pour ces petits que tu nous confies et de les élever avec amour et patience. Et puis merci Seigneur, nous te bénissons de lui avoir donné Isabelle pour mère. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et Isabelle nous propose de chanter ensemble le cantique 204, « Seigneur, dirige et sanctifie ». Alors quand il y a marqué « soumet son âme à l'Évangile », il ne s'agit pas d'écrabouiller son âme au moule de l'Évangile, mais bien sûr que sa vie tout entière soit irriguée, transformée par cet amour qui nous précède. Oui, c'est ce que nous souhaitons pour Marie, pour Isabelle, pour Marie-Noël et Jean-Charles. J'ai choisi dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 6, à partir du verset 11, un passage qui nous permettra de réfléchir à quelle espérance nous propose Dieu dans la Bible. Nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et par l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même en disant « Certainement, je te bénis et je te bénirai, je te multiplie et je te multiplierai. » Et c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Car les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux, et le serment, en confirmant leurs paroles, met un terme à tout doute, à toute contestation. Et en ce sens, Dieu voulant donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, il intervint par un serment, afin que par deux actes immuables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Ce Melchisédek était roi de Salem, grand prêtre du Dieu Très-Haut. Il alla à la rencontre d'Abraham qui venait d'avoir victoire sur des rois et il bénit Abraham. Et c'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. Et en interprétant le nom de Melchisédek, il est d'abord roi de justice, mais aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, et rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure grand prêtre à perpétuité. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour laisser résonner ces paroles en nous, et puis pour faire aussi comme une séparation entre la parole de la Bible et puis la parole du pasteur, eh bien, je vous propose de chanter le psaume 81, les trois premières strophes de ce psaume 81 dans le psautier français. Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu. Désormais, mon Dieu, c'est toi que j'aime. toi auquel je m'attache, toi que je désire servir parce que toi seul as le droit d'être mon Seigneur et je désire être ton enfant. Parle, je t'en prie, et dis ce que tu voudras, je sais que ce sera bon. Mais guéris et ouvre mon intelligence afin que je puisse entendre tes paroles. Guéris et ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta volonté. Éloigne de moi l'égarement de l'esprit afin que je puisse te reconnaître en vérité. Enseigne-moi les moyens que je dois prendre pour aller à toi, Père, et j'espère alors pouvoir accomplir ce que tu me diras. Je ne demande qu'une chose, mon Dieu, c'est que ton puissant amour me convertisse entièrement afin que rien ne s'oppose en moi à tes efforts. Fais que je sois pur, magnanime, juste et prudent, et que j'aie en perfection l'amour et de toi et de tes enfants que tu me donnes d'aimer. Comment peut-on raisonnablement espérer alors qu'il y a tant de hasard dans la vie? Qui sait ce qui va nous tomber dessus de bon ou de mauvais demain ou dans 10 ans? Alors regardons comment ce passage de la Bible parle de l'espérance. Il nous dit « se saisir de l'espérance qui nous était proposée par Dieu ». Il nous propose de mettre de l'ardeur à développer notre espérance jusqu'à son plein épanouissement. Et puis de la saisir, de la prendre à pleine main comme une ancre sûre et solide dans notre vie. Alors la première chose que nous pouvons noter, c'est que l'espérance qui nous est proposée n'est pas ce que nous prenons si facilement finalement comme espérance. C'est-à-dire les 1001 petits espoirs que nous plaçons dans notre vie. Alors ils ne sont pas mauvais en eux-mêmes bien sûr, mais ils n'ont pas la profondeur d'une espérance, c'est-à-dire qu'ils ne restent qu'à la surface des choses, au gré de nos désirs de l'instant, qui sont de bons désirs, certes, mais qui sont variables et qui sont soumis aux aléas de l'existence, si décevants même quand ils sont parfois réalisés. Pourtant, l'espérance qui nous est proposée ici n'est pas une sorte de chose abstraite, finalement, comme une utopie de lendemain qui chante, ni une attitude mentale comme l'optimisme, si vous voulez. L'espérance dont il est question ici serait une réalité bien plus concrète que ce que nous imaginons. Ce qui nous est dit ici de notre rapport à l'espérance pourrait avoir été écrit de notre santé physique, par exemple, ou même d'un capital financier que nous aurions et que l'on pourrait recevoir, puis développer et avoir ainsi une santé peut-être, ou une culture, ou une fortune vraiment garantie, solide, vraie, sur laquelle nous pouvons compter. L'espérance est donc une chose très concrète, comme un muscle que l'on travaille, comme une corde que l'on saisit à pleine main, que l'on sent déjà vraiment, concrètement, réellement dans ses mains. Et cette façon de présenter l'espérance est assez nouvelle finalement. Car souvent l'espérance est conçue comme quelque chose qui concerne seulement l'avenir, avec sa dose de chance, de malchance, malgré toutes nos précautions, car oui, il reste du chaos dans l'univers, et la mer qui est évoquée avec cette image de l'encre parle bien de ce chaos qui existe encore dans ce monde. Mais donc ce qui fait que notre espérance, elle est finalement parfois comme une attente angoissée face à l'avenir, devant le futur, quand notre espérance est uniquement placée dans l'avenir. Mais ici, ce n'est pas le cas, c'est une espérance que l'on saisit déjà à pleine main dans le présent. Alors c'est vrai que bien des espérances nous ont déçus finalement, espérances qui avaient pourtant porté, qui avaient tenu en haleine les générations passées. L'espérance dans un Dieu tout-puissant, maître des événements, cette idée-là a été vendue au sens propre par bien des religions. Et cette espérance a fait plus d'athées dans le monde que tous les athées militants du monde. Parce que ce n'est pas vrai, et heureusement d'ailleurs, que Dieu serait maître de la pluie et du beau temps, maître des mouvements, des plaques tectoniques, des météorites, des épidémies, et encore moins maître de la folie des hommes. Il est puissant, mais autrement que cela. Bien d'autres espérances ont été déçues, l'espérance dans la capacité de l'homme à être enfin un peu sage. Cette espérance s'est enlisée dans les bouts de Verdun et est partie en fumée à Auschwitz. L'espérance des grandes utopies politiques a aussi fait long feu au cours de ce XXe siècle. Il y a eu des progrès dans les techniques, dans certaines prises de conscience, et c'est un vrai progrès. Et c'est vrai que grâce à cela, la vie est un peu plus sûre, elle est un peu plus confortable pour bien des pauvres gens dans le monde. Les pauvres ne sont pas toujours plus pauvres. Mais cela, ce progrès appréciable, n'a en fait rien ajouté en termes d'espérance. Et finalement, l'espérance que donne la foi ne se porte pas si mal dans le monde, en fait. Et encore, c'est avec ce handicap des salades vendues par des sectes si diverses. Alors pourquoi est-ce que l'espérance qui vient de Dieu reste quasiment, si vous voulez, la seule rescapée de cette faillite des grandes espérances de ce monde ? Eh bien parce que, comme le dit le texte de la lettre aux Hébreux que je vous ai lu tout à l'heure, l'espérance qui nous est proposée par Dieu est une espérance que l'on peut saisir vraiment à pleine main. C'est une espérance qui se développe, qui s'entraîne et qui donne un puissant réconfort, une espérance solide et sûre, une espérance tout-terrain. L'espérance que Dieu nous offrait, nous dit la lettre aux Hébreux, et dont nous nous sommes saisis, cette espérance, nous la saisissons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, et elle pénètre au-delà du voile. Alors cette espérance, ce n'est donc pas une attente, ce n'est pas un futur, mais cette espérance est un présent fiable, un présent prometteur, comme une confiance éprouvée qui effectivement, face à l'avenir, nous donne une force. Alors comment expliquer cela ? Que cette espérance ne soit pas seulement future, mais quelque chose que l'on touche déjà du doigt en Christ. Imaginons par exemple un ami avec qui nous aurions partagé tant de choses dans notre vie, un ami qui ne nous aurait pas lâchés dans des moments difficiles, alors que tant d'autres nous auraient abandonnés. Il existe ainsi, il peut exister ainsi dans notre vie, des liens si solides et si vrais qu'ils sont comme garantis. Nous savons que ces liens-là seront plus forts que les aléas de la vie, qu'ils seront pour le meilleur et pour le pire, qu'il peut nous arriver la santé comme la maladie, des catastrophes, qu'ils surviennent la pluie et le beau temps, des guerres, des crises, des fautes terribles, mais il y a là une confiance dans un lien, dans une relation. Eh bien, l'espérance dont il est question ici est de cet ordre. Elle est celle d'un Dieu qui s'est approché de nous. Elle est celle d'un lien, d'une alliance qui est forte, tellement forte dans le présent, que nous savons pouvoir compter dessus pour l'avenir, quoi qu'il arrive. Abraham est le type même de celui qui fonde son espérance sur ce vécu avec Dieu. Et c'est ce que nous dit Paul dans sa lettre aux Romains. Espérant contre toute espérance, Abraham eut confiance et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Alors Dieu s'est approché de lui et Abraham a senti qu'il pouvait lui faire confiance à ce Dieu, à cette présence aimante, à cette présence qui fait du bien, à cette présence qui met sur pied et qui lui donne de l'enthousiasme et l'envie d'avancer, de découvrir du neuf et de ne pas avoir peur, pas si peur. Alors la vie ne sera pas facile pour autant. Abraham, Sarah connaîtront la famine, ils connaîtront l'exil, les traîtrises, la stérilité, les succès. Alors on voit bien dans cette histoire d'Abraham, dans cette longue histoire, on voit bien que Dieu ne maîtrise pas tous les aléas de la vie, mais qu'il accompagne finalement, qu'il fait du bien et qu'il bénit vraiment, et qu'il fait qu'Abraham ait même bénédiction. Et c'est cela qui fonde l'espérance tout terrain d'Abraham, espérance plus forte que les mauvaises surprises et les attentes déçues, plus forte même que les bonnes surprises et les succès qu'il va pouvoir remporter, succès qui peuvent rendre fous bien des hommes et des femmes finalement. Non, Abraham garde par la foi une espérance vraie. Il s'en saisit à pleine main, il la travaille, il l'affine, il la nourrit de sa réflexion, de ses expériences, de sa prière, et il va la nourrir de ses rencontres successives avec Dieu, de ses tentatives pour en vivre. Mais allez-vous me dire, et si moi, je n'ai jamais senti la présence de Dieu, si j'ai jamais eu l'impression dans la prière d'avoir quelqu'un qui est là et qui me parle, mais que dans la prière j'ai l'impression d'être seulement face à moi-même. Alors c'est possible qu'on ne sente pas la présence de Dieu, alors ça peut venir. Et si ça ne vient pas, ce n'est pas si grave, car ça n'empêche absolument pas de prier. Je dirais même que 50% des gens ont la chance d'avoir plus ou moins fortement, plus ou moins fréquemment, ce genre de sentiment de la présence de Dieu, d'un amour plus grand, plus fort que simplement l'humain auprès d'eux. Alors tant mieux pour eux. Car cette expérience peut vraiment être fondatrice, oui, d'une confiance qui est plus forte que tout ce qui pourrait nous arriver de bon et de mauvais, comme une espérance que l'on saisit à pleine main. Reste alors, bien sûr, à affiner cette espérance, à la laisser décanter, à la purifier, car dans notre espérance se mêle tant aussi de nos petits espoirs bien humains. Et puis à la développer jusqu'à son plein épanouissement, comme le propose ce texte. Mais alors si vous ne faites pas partie de ces 50%, si vous êtes ceux qui n'ont pas encore, ou qui n'auront jamais peut-être aussi, cette disposition de sentir la présence de Dieu, le sentiment de cette présence de Dieu, eh bien vous n'êtes pas anormaux, ce n'est pas si grave, Dieu est un Dieu aux 1000 ressources. Et comme notre corps a 5 sens pour s'ouvrir au monde, notre être profond a bien plus que le seul sentiment religieux pour sentir la présence de Dieu, pour saisir l'espérance que Dieu nous donne et bâtir une vraie relation, ce lien solide comme une ancre accrochée dans la profondeur de l'être. Oui, Dieu nous offre d'autres moyens pour passer au-delà de ce voile, finalement, à la suite du Christ. Abraham, nous dit le texte, est vainqueur de tous les rois, et selon l'habitude de l'époque, eh bien, les rois portent un tribut et lui donnent plein de fortune, tant mieux. Mais voilà qu'arrive un mystérieux Melchisédek, roi de Salem, Et c'est Abraham qui lui verse la dîme de tout ce qu'il possède, ce qui est un comportement étrange pour un roi qui est vainqueur, pour Abraham qui est vainqueur des rois. Eh bien, l'Épître aux Hébreux nous propose ainsi une relecture spirituelle de l'histoire d'Abraham. Melchisédek est un personnage qui est un peu particulier. On le voit bien dans ce que nous dit cette lettre aux Hébreux. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et donc ce Melchisédek, c'est une figure de Dieu, bien entendu. L'Épître nous fait remarquer que Melchisédek est roi de Salem, ce qui signifie, selon le sens des noms propres, nous dit cette lettre aux Hébreux, roi de justice et roi de paix. Et qu'Abraham même, au sommet de sa force et de ses succès en ce monde, ne pouvait gagner cela par soi-même et qu'il en rend grâce donc à ce roi Melchisédek, roi de paix, roi de justice. Alors c'est vrai, la possibilité même d'une justice et d'une paix dans notre existence ne peut venir que de plus grand que l'homme. C'est une réalité profonde. Et donc Melchisédek, il passe dans notre âme comme dans la vie d'Abraham. À chaque fois que nous sentons une certaine paix dans notre être, ou bien ne serait-ce qu'une paix un peu plus grande, si vous voulez, ou une souffrance qui recule, une angoisse qui se réduit, que l'on peut enfin un peu dominer. Ou même à chaque fois que, si la souffrance est plus profonde encore, chaque fois que nous avons une certaine idée de ce que serait la paix, finalement, la paix qui nous manque, ou une certaine idée de ce qui serait juste et bon au cœur même de l'injustice qui nous frapperait, d'une injustice totale finalement. C'est déjà quelque chose qui est une conception de la paix, une conception de la justice qui nous titille, si vous voulez, qui résonne en nous, qui est vivante en nous. Eh bien, tout ce qui touche à la justice et la paix dans notre existence ne peut venir que de plus grand que l'homme. Que cela existe, même comme une trace, même comme une petite espérance dans notre cœur, c'est la trace d'une visite de Dieu, si vous voulez. C'est la preuve que nous avons un bon fond, en réalité, si vous voulez. Que nous sommes habités d'une source de justice et de paix. Et nous sommes habités, donc, par une soif de Dieu, une soif qui vient de Dieu, une soif de justice. Cette source, Melchisédek, est sans commencement de vie et sans fin. Il nous enracine dans l'éternité, au-delà du temps qui passe. Et c'est pourquoi il est source d'une espérance véritable. Alors l'histoire d'Abraham nous invite à recevoir de ces instants Melchisédek qui sont dans notre vie, si vous voulez. De recevoir du pain et du vin, comme le dit le récit de la Genèse, à recevoir une nourriture et une joie pour notre espérance, quelque chose qui nourrit notre être en profondeur, qui nous permet de reprendre de la force, un réconfort, qui nous permet de retrouver un peu de joie et se sentir béni par Dieu et avoir envie de bénir ce Dieu pour cette qualité, pour cette profondeur d'être que nous avons déjà, alors même que nous sommes au sommet de nos victoires ou au creux de nos détresses. La joie de ne pas être simplement une bûche ou un caillou, mais un être qui sait ce qu'espérer veut dire. Un être qui sait qu'il pourrait y avoir de la justice et de la paix et la désirer et l'espérer. Et se sentir vivant et en rendre grâce et s'en saisir de cela, de ce frétillement, si vous voulez. Abraham nous invite à prendre le temps et les moyens d'honorer cette source et cette dynamique dans notre existence, d'honorer cette source de la pensée, de la méditation et de l'honorer, de lui rendre grâce par les tripes aussi, si vous voulez, par les sentiments, par l'intelligence, par la louange et par les gestes. Alors parfois, cela nous fait passer de l'autre côté du voile, comme la prière peut parfois nous le permettre de le faire, dans des instants de mystique. Passer de l'autre côté du voile, comme le Christ, qui nous a montré que cela était possible, réellement possible. Passer de l'autre côté du voile, ça fait allusion à ce geste qu'avait le grand prêtre au temple de Jérusalem une fois par an d'entrer dans le Saint des Saints et de chuchoter le nom de Dieu. Alors bien entendu, ce n'était qu'un geste symbolique, car Salomon lui-même savait que le temple de Jérusalem n'est qu'un symbole pour l'homme et que Dieu n'est pas plus présent là qu'ailleurs, bien entendu. Bien entendu, Dieu est l'au-delà de tout, il est la profondeur, la source même de l'être, il n'est pas dans un lieu géographique donné. Alors ce geste du grand prêtre était en fait une prédication. Et le Christ nous montre que nous pouvons vivre cette prédication, vivre par la prière, par la rencontre avec Dieu, mais aussi par la conscience des visites de Melchisédek dans notre monde. Et même si nous ne passons pas encore ou que trop rarement de l'autre côté du voile, nous avons par la foi un lien, si vous voulez, un lien qui passe à travers le voile et qui nous enracine dans cet amour qui est source de tout et qui fonde la seule espérance véritable, en fait, une confiance. Alors nous pouvons saisir à pleine main cette espérance que Dieu nous tend. Alors, nous dit l'Épître aux Hébreux, nous pouvons recevoir non pas la réalisation de la promesse, comme il y a parfois dans des traductions malheureuses, mais nous pouvons recevoir la promesse, une promesse personnelle qui nous est donnée à nous, la seule qui soit solide et sûre, car elle vient de Dieu nous-mêmes, et qu'il l'a préparée dans son atelier, si je puis dire, spécialement pour nous. C'est plus qu'une espérance, c'est une confiance intime que nous avons déjà expérimentée, finalement. Et dans cette expérience, il y a un puissant encouragement pour avancer et pour voir l'avenir. Saisir cette espérance, c'est comme trouver un enfant dans un panier au détour d'un buisson et le prendre dans ses bras, un enfant que nous ne connaissons pas encore, bien sûr, puisqu'il n'a pas encore parlé, comme la fille du Pharaon qui adopte un petit Moïse. C'est presque rien, un bébé, et pourtant c'est déjà tout. Tout est déjà là, une vie, une personnalité, une espérance vivante que l'on prend dans les bras, non pour l'empêcher de vivre, mais au contraire, comme nous le propose l'auteur de la lettre aux Hébreux, pour travailler avec une pleine ardeur à son épanouissement, à son développement, jusqu'à ce qu'il atteigne, la paix, c'est-à-dire le plein épanouissement. L'espérance que Dieu nous donne est ainsi, elle est bien réelle, elle est déjà donnée par Dieu, venant de lui, déposée dans nos bras. Et pourtant, comme pour Marie, tout reste encore à faire. Cette espérance que Dieu donne, elle n'est pas décevante comme celle de lendemain qui chante, puisque nous l'avons déjà dans les bras finalement. Elle est déjà réalisée dans le présent et même, en même temps, elle est encore en devenir. Faisant des progrès chaque jour pour ceux qui veillent sur cette espérance, sur ce bébé espérance, avec l'amour qu'a une mère pour son enfant finalement. Alors une espérance que nous trouvons, oui, dans un buisson, dans les ronces et dans les épines de ce monde, et découvrir que ce monde est bien moins mauvais finalement qu'on ne le pensait, qu'on ne le craignait. Parce que Dieu a tellement aimé le monde, nous dit Jésus, qu'il l'a créé aussi beau qu'un enfant posé dans un buisson, à la fois plein de promesses et ayant encore besoin de tant de soins pour se développer finalement et pour vivre. Nous sommes dans ce temps de l'entre-deux, nous dit le Christ. Le royaume s'est approché, il est déjà là, il est déjà en nous, il est déjà au milieu de nous, quand les rencontres sont profondes et vraies. Il est donc ce royaume de Dieu en germe. Nous n'avons pas à l'attendre pour demain. Il est à nous maintenant, aujourd'hui, nous dit le Christ. Nous sommes dans cet entre-deux, nous dit encore le Christ. L'heure vient et elle est déjà là, finalement. Et c'est ce que nous dit la promesse d'Abraham. Il n'y a pas marqué « Je te bénirai ». Comme c'est marqué en quelques maladroites traductions, mais je te bénis maintenant, aujourd'hui, et je te bénirai encore. Je te multiplie aujourd'hui, et je te multiplierai encore, de sorte que toutes les nations seront bénies en toi. Oui, il n'y a plus à attendre la Saint-Glinglin pour vivre de l'espérance de Dieu, mais déjà l'espérance que Dieu nous a offerte est dans nos bras. Il n'y a plus qu'à. Et pour ce reste à faire, si beau et si libre, oui, nous pouvons compter sur la bénédiction de Dieu. La tempête soufflera un peu, ou elle ne soufflera pas, car le pire n'est pas toujours certain quand même. Ce n'est pas si grave de toute façon. Notre ancre est solide, c'est l'espérance de Dieu. Et puis, par l'intelligence, par le progrès, nous avons un service météo qui est un peu plus performant. Et ça aussi, ça compte. Amen. Et Isabelle nous offre la joie de chanter le cantique 150 à toi la gloire pour vraiment nous placer dans la louange à Dieu pour cette cette petite Marie qu'il place dans notre route. À toi la gloire, les trois strophes du cantique 150. Alors, comme annonce pour ce dimanche, il y a d'abord une annonce qu'il y a un pot d'accueil à la sortie. C'est Isabelle qui nous a même préparé de la mousse pour fêter donc Marie et notre joie commune. Donc, de vous avoir. Donc, merci pour. Donc, ça sera derrière la grande porte de la sacristie. Voilà. Alors, cet apéritif sera suivi d'un repas de paroisse en face, aux 4 rues de l'Oratoire. Donc, il n'y aura pas d'apéritif en face, puisque nous le prendrons là. Ce repas, donc, est, déjà, il y a des bonnes odeurs dans la maison depuis vendredi soir. Samedi, je les ai vus couper en millions de petits morceaux, des salades de fruits géantes. Et vraiment, donc, il y a plein de bonnes choses. Vous êtes les bienvenus, même si vous n'êtes pas inscrits à ce repas fraternel. Alors, si vous le voulez, à la sortie, vous pouvez prendre le texte de la méditation que je vous ai proposé pour la partager peut-être avec d'autres, ou bien pour être d'accord avec un point, moins d'accord avec un autre, c'est fait pour. Jeudi, nous avons ici à 10h30 le culte pour le jour de l'Ascension, donc avec James, et puis bien sûr un culte dimanche prochain, comme tous les dimanches à 10h30. Alors nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu, et le temps d'offrande que nous allons avoir maintenant est une occasion, eh bien, de dire notre louange, de replacer en perspective les différentes réalités dans notre existence, et puis aussi, très concrètement, eh bien, de faire que l'Église puisse exister pour vous aider à témoigner dans le monde. Seigneur, une autre. Il y a aussi encore une annonce que j'ai oubliée. Donc cet après-midi, il y a le marathon des orgues qui va passer par l'oratoire. Donc le départ, en fait, est à 14h à Saint-Augustin. Ensuite, à 15h, ça passe par la Madeleine. Et puis à 16h15, ça passera ici. Alors on a le droit de venir directement à l'oratoire à 16h15 pour entendre un petit concert d'orgue de 20 minutes par Jean-Dominique Pasquet, et puis je présenterai un peu l'oratoire et puis son orgue d'abord. Et puis à 17h15, eh bien, le marathon de cette année, le programme de cette année, va donc à Saint-Germain-l'Auxerrois pour une dernière visite. Donc c'est une occasion, voilà, de connaître pour cette journée, je ne sais pas si c'est mondiale ou internationale, de l'orgue qui a lieu tous les ans. Cette année, donc, le marathon passe par chez nous. Nous prions Dieu. Ô notre Dieu, merci pour tout ce qu'il y a de génial, de bon et de beau dans notre vie. Merci pour tout ce qu'il y a de bon en nous. Merci pour l'immense source de résurrection qu'est ta présence, cette source d'espérance vraie. Que tout cela nous donne la soif de te présenter en vérité ce qui nous inquiète et ce qui nous peine. Oui, Seigneur, nous pensons devant toi et grâce à toi à ceux qui souffrent, à ceux qui doivent reconstruire une nouvelle vie après une séparation, après un deuil, après un échec, après une maladie. Nous pensons à ceux qui sont en souci pour leur situation. Nous pensons devant toi à ceux qui nous sont chers et à ceux que nous avons plus de mal à aimer. Oui, nous te les confions en particulier. Et unis par toi, notre Dieu, avec tous les croyants qui cheminent vers toi en Christ, Nos cœurs élèvent vers toi la prière qu'il nous a proposé de vivre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, Père, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, toi. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, demeure par ta grâce auprès de chacune et chacun d'entre nous, ô Dieu Sauveur.